Chapitre 2, la voix prophétique dans le Nouveau Testament. Eckhart Müller. La prophétie est un sujet important dans le Nouveau Testament. C'est un sujet bien trop vaste pour être abordé dans un seul article. Ainsi, cet article peut être considéré comme une introduction sur le sujet de la prophétie dans le Nouveau Testament. Il est important que d'autres études le développent plus en détail et évoquent ses implications pour les lecteurs d'aujourd'hui. Le sujet de la voix prophétique dans le Nouveau Testament comporte deux aspects. Premièrement, le messager du Nouveau Testament, à savoir le prophète qui transmet certaines informations, et deuxièmement, le message prophétique lui-même. Cet article aborde essentiellement la voix prophétique et évoque plus rapidement le message prophétique. Le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, vocabulaire. Dans cette partie, nous étudierons brièvement le vocabulaire utilisé pour décrire les prophètes et nous évoquerons certaines personnes ayant reçu le don de prophétie. Puis, nous analyserons rapidement le lien entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Nous aborderons ensuite la question du don de prophétie et, enfin, nous évoquerons la nature, le rôle et la fonction des prophètes du Nouveau Testament. Vocabulaire décrivant le ministère prophétique dans le Nouveau Testament. L'étude des mots doit se faire avec sérieux, le contexte déterminant souvent leur sens. Cependant, les termes employés par un auteur peuvent nous donner des informations importantes. C'est le cas en ce qui concerne les prophéties. L'Ancien Testament utilise quatre termes principaux pour décrire les prophètes. Nabi, prophète, utilisé 309 fois. Roé, voyant, utilisé 11 fois, Hosée, visionnaire, utilisé 16 fois, et Ish Elohim, homme de Dieu, utilisé 76 fois. En revanche, le Nouveau Testament se limite au mot générique prophète, prophète, et fait parfois référence de façon indirecte à la notion de prophétie. La Septante traduit le terme nabi par le terme prophétesse, prophète, et emploie occasionnellement ce mot pour les termes « roé » et « hosé ». Le terme générique de prophète dans le Nouveau Testament recouvre les mots suivants. 1. Prophétesse, prophète, utilisé 144 fois. 2. Prophétis, prophétesse, utilisé 2 fois. 3. Prophétéouo, prophétisé, utilisé 28 fois. 4. Prophétéia, prophétie, utilisé 19 fois. 5. Prophétikos, prophétique, utilisé 2 fois. Et 6. Pseudo-prophétesse, faux prophète, utilisé 11 fois. Le fait que des termes de la famille du mot prophète soient employés 206 fois dans le Nouveau Testament souligne l'importance de ce sujet. Avant d'étudier ces termes tels qu'ils sont employés dans le Nouveau Testament, il convient de souligner la place des prophéties dans le monde gréco-romain. Boring déclare ceci. Les mots « prophète », « prophétie » et « prophétique » n'étaient pas univoques. Le terme « prophète » était utilisé non seulement pour désigner celui qui parle de la part de Dieu et interprète sa volonté, pour les êtres humains, mais pour désigner aussi ceux qui étaient en charge des oracles à Brachide, les représentants du rang le plus élevé des prêtres en Égypte, les herboristes et les charlatans, les interprètes des oracles de Mentis, Platon, Tite Live, 72a, par extension les poètes, voire Tite 1, verset 2 d'Épiménide, et de façon métaphorique, les orateurs en général, y compris ceux qui présentaient les jeux. Cette approche très large de la notion prophétie est plus limitée dans le Nouveau Testament. Bien qu'il soit important de comprendre de quelle façon un terme était utilisé dans la société, cela ne signifie pas que toutes ces nuances sont présentes dans les Écritures. Ainsi, Boring propose une définition plus limitée de ce qu'était un prophète à l'époque du Nouveau Testament. Les prophètes des débuts de l'ère chrétienne étaient des porte-paroles inspirées directement par Dieu, Jésus le ressuscité, ou l'Esprit. Ils recevaient des messages intelligibles qu'ils se sentaient poussés à partager avec la communauté chrétienne ou ceux qui la représentaient. Les prophètes recevaient la révélation divine et, sous l'inspiration, ils communiquaient ce qu'ils avaient reçu, que ce soit par des visions, des paroles audibles, des rêves, etc. généralement aux croyants, mais indirectement aussi à un public plus large. Les prophètes étaient les porte-paroles de Dieu. Cette approche doit être vérifiée par la Bible, et notamment dans le cadre de notre étude, par le Nouveau Testament. Le mot « prophète » « prophète ». Le mot « prophète » est utilisé de façon irrégulière dans le Nouveau Testament, comme l'indique le tableau ci-dessous. Il est totalement absent de certains livres, qui ne sont donc pas mentionnés ci-dessous, alors qu'on le trouve à de nombreuses reprises dans d'autres livres.
Livre du Nouveau Testament. Occurrence du mot « prophète ». Matthieu 37, Marc 6, Luc 29, Jean 14, Actes 30, Romains 3, 1 Corinthiens 6, Éphésiens 3, 1, Thessaloniciens 1, Tite 1, Hébreux 2, Marc 6, Jacques 1, Jean 14, 1, Pierre 1, 2, Pierre 2, Apocalypse 8, Éphésiens 3. Total 144. C'est dans l'évangile de Matthieu que ce mot apparaît le plus grand nombre de fois. Nous prendrons l'exemple de cet évangile pour mettre en évidence la façon dont ce terme est employé. 1. Dans la majorité des cas, le mot « prophète » fait référence à un prophète précis de l'Ancien Testament, ou à plusieurs prophètes lorsque le mot est au pluriel, 21 fois. Matthieu montre que les prédictions de l'Ancien Testament se sont accomplies, soulignant ainsi la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 2. Le terme « prophète » apparaît également dans l'expression « la loi et les prophètes », décrivant tout l'Ancien Testament, 4 fois. Matthieu 5, verset 17, 7, verset 12, 11, verset 13, 22, verset 40. 3. Jean-Baptiste est un véritable prophète, 4 fois. Matthieu 11, verset 9, 2 fois, 14, verset 5, 21, verset 26. Dans la droite ligne des prophètes de l'Ancien Testament, il est le premier prophète du Nouveau Testament. Il apparaît après la période intertestamentaire de 400 ans, au cours de laquelle il n'y eut pas de véritable prophète, à notre connaissance. 4. Jésus lui-même est considéré comme un véritable prophète, ce qu'il est en effet. Cité deux fois directement, Matthieu 21, verset 11, 46, et une fois directement dans une déclaration générale sur les prophètes, Matthieu 13, verset 57. 5. On peut noter des déclarations générales concernant les prophètes, 4 fois. Matthieu 10, verset 41, 3 fois. 23, verset 37. 6. Il y a également les prophètes envoyés par Jésus, une fois. Matthieu 23, verset 34. Ainsi, le terme de prophète est utilisé de façon variée. Les autres écrits du Nouveau Testament emploient ce terme de la même façon que Matthieu dans son évangile, avec parfois un accent particulier. Par exemple, Luc mentionne environ 5 fois Jésus en tant que prophète, plus souvent que Matthieu. Jean va encore plus loin. Les 8 occurrences du mot « prophète » de son évangile font directement ou indirectement référence à Jésus. Jésus est un prophète. Jean-Baptiste déclare ne pas être le prophète attendu. Jean 1, versets 21-25. Car Jésus n'est pas simplement un prophète, mais le prophète annoncé par Moïse, le second Moïse, le prophète qui surpasse tous les autres prophètes. Versets 21 et 25. Jean 6, verset 14, 7, verset 40. L'accent est mis plus particulièrement sur les prophètes du Nouveau Testament dans 1 Corinthiens et le livre des Actes. Par exemple, Actes 11, verset 27, 15, verset 32, 21, verset 10. Nous reviendrons à ces deux livres plus tard. Paul associe les prophètes à l'ecclésiologie. Les prophètes ont reçu un don spirituel particulier. Voir par exemple 1 Corinthiens 12, versets 28-29. Il y a des prophètes dans l'Église, par exemple 1 Corinthiens 14, verset 29. Le fondement de l'Église est Jésus, mais aussi, dans une certaine mesure, les apôtres et les prophètes. Éphésiens 2, verset 20. Les apôtres et les prophètes ont reçu une révélation divine. Éphésiens 3, verset 5. Au sujet de la nature de l'Église. Les responsables de l'Église sont les apôtres,
les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Éphésiens 4, verset 11. Un prophète crétois est mentionné dans Tite 1, verset 12. Ce n'est pas un prophète dans le sens biblique, mais il est considéré comme tel par ses compatriotes. Les prophètes du Nouveau Testament apparaissent également dans le livre de l'Apocalypse. Les prophètes mentionnés dans Apocalypse 10, verset 7, peuvent être à la fois des prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Les deux témoins d'Apocalypse 11, liés à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, sont aussi appelés les deux prophètes. Apocalypse 11, verset 10. Les prophètes sont souvent mentionnés avec les saints. Verset 18, Apocalypse 16, verset 6, 18, verset 24, avec lesquels ils seront récompensés, mais aussi avec les apôtres. Apocalypse 18, verset 20. Certains d'entre eux seront tués. Apocalypse 16, verset 6, 18, verset 24. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, est lui-même un prophète. Il appartient au groupe des prophètes. Apocalypse 22, verset 6 et 9. Le terme « prophète », tel qu'il est employé dans l'Apocalypse, ne décrit que les véritables prophètes, ainsi que les deux témoins. Les prophètes sont appelés les serviteurs de Dieu. Apocalypse 10, verset 7, 11, verset 18. Il semble que ce terme ne décrive que les personnes ayant reçu le don de prophétie, ce qui les distingue des autres croyants. Il n'est pas utilisé de façon générale pour évoquer ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère prophétique des pasteurs ou de l'Église. Pour résumer, le mot « prophète » est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Il est néanmoins employé de façon inégale et on le trouve essentiellement dans les Évangiles et le Livre des Actes. La fréquence d'utilisation semble indiquer l'importance du sujet. Cependant, les lecteurs ne doivent pas s'arrêter aux occurrences de ce terme et oublier les auteurs qui l'emploient rarement, mais avec un poids théologique plus important. Dans le Nouveau Testament, les prophètes sont les prophètes de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dans son intégralité, Jean-Baptiste, Jésus et les prophètes du Nouveau Testament. Dans son évangile, Jean réserve le terme de prophète à Jésus, qui est un prophète, mais surtout le prophète, à savoir l'antitype de Moïse. Cependant, dans l'Apocalypse, les prophètes sont Jean, et essentiellement les prophètes du Nouveau Testament. Jésus est avant tout l'agneau, mais aussi le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, etc. Il n'apparaît pas comme prophète dans l'Apocalypse. La différence entre le statut de Jésus dans l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse est peut-être son incarnation décrite dans l'évangile, ainsi que son rôle céleste et son exaltation décrit dans l'Apocalypse. Paul utilise le terme « prophète » dans les textes où il parle d'ecclésiologie. Par exemple, quand il parle des dons spirituels, des responsables et du fondement de l'Église. Le mot « prophétesse », « prophétie ». Le féminin du mot « prophète », « prophétie » apparaît deux fois dans le Nouveau Testament. Il est employé une fois de façon positive et une fois de façon négative. La véritable prophétesse du Nouveau Testament est Anne, qui est mentionnée dans le récit de Luc, Luc 2, verset 36. Après avoir vu l'enfant Jésus, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Luc 2, verset 38, TOB, 2010. La fausse prophétesse est Jézabel, Apocalypse 2, verset 20. Elle affirme être une véritable prophétesse, mais elle trompe les enfants de Dieu. Cependant, il y a d'autres prophétesses qui ne sont pas désignées par ce terme, mais au sujet desquelles le verbe « prophétiser » est employé. Ce sont donc bien des prophétesses. Le mot « prophétie », « prophétéia ». Le nom « prophétéia », « prophétie », se trouve 19 fois dans le Nouveau Testament. C'est dans la première épître aux Corinthiens qu'il apparaît le plus souvent, 5 fois, ainsi que dans le livre de l'Apocalypse, 7 fois. Le mot « prophétie » n'est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament pour décrire une prophétie de l'Ancien Testament. Matthieu 13, verset 14. Cela contraste avec l'emploi du terme « prophète » qui, dans le Nouveau Testament, fait souvent référence aux prophètes de l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu précédemment. Dans Romains 12, verset 6 et 1 Corinthiens 12 à 14, le mot « prophétie » décrit le don spirituel de prophétie, en le distinguant parfois du don des langues. En raison de leur nature divine, les prophéties ne devraient pas être méprisées. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. C'est grâce aux prophéties que le ministère de Timothée fut établi et confirmé. 1 Timothée 1, verset 18, 4, verset 14. Dans Apocalypse 1, verset 3 et 22, verset 7, 10, 18, 19, les expressions « les paroles de la prophétie », « les paroles de la prophétie de ce livre », « les paroles du livre de cette prophétie » font référence au livre de l'Apocalypse. Bien que le livre de l'Apocalypse soit essentiellement constitué d'éléments apocalyptiques, sa nature prophétique est mise en évidence. C'est intéressant, car dans le passé, on considérait que la littérature apocalyptique ne trouvait pas sa source dans les prophéties, mais dans les livres de sagesse ou les mythes. Dans Apocalypse 19, verset 10, il est dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire que le Saint-Esprit parle par l'intermédiaire du don de prophétie. Cette définition du témoignage de Jésus concerne toutes les autres références au témoignage de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Le texte d'Apocalypse 12, verset 17, déclare que le reste porte le témoignage de Jésus, ce qui signifie que, grâce au Saint-Esprit, il a le livre de l'Apocalypse ainsi que le don de prophétie, l'esprit de prophétie, à savoir le ministère et le message des véritables prophètes, que ce soit sous forme canonique, le Nouveau Testament, ou non canonique. Selon les adventistes du septième jour, ce message non canonique comprend le ministère d'Ellen G. White. F. Hahn déclare que le témoignage de Jésus est le contenu de la prophétie, alors que le Saint-Esprit en est la puissance. Il considère que la dernière partie d'Apocalypse 19, verset 10, est essentielle pour comprendre l'Apocalypse. Il révèle de quelle façon l'auteur comprenait son ministère prophétique. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, il proclamait la victoire du Christ ressuscité. Les deux témoins d'Apocalypse 11, verset 6, ne sont pas seulement des prophètes. Ils sont associés au terme « prophétie ». Il doit en effet en être ainsi s'ils représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. De plus, les deux textes de 2 Pierre 1, verset 20 et 1, verset 21, associent la prophétie aux Écritures et affirment que les prophètes étaient inspirés par Dieu. Ainsi, le terme « prophétéia » décrit avant tout le don spirituel de prophétie, mais il désigne plus souvent encore le livre canonique de l'Apocalypse, le Nouveau Testament et toutes les Écritures. Le mot « prophétiser »,« prophétéo ». Le mot « prophétéo », »,« prophétiser », est un autre terme important de cette famille de mots. Ce verbe apparaît 28 fois dans le Nouveau Testament. Il désigne le ministère prophétique de tout l'Ancien Testament, Matthieu 11, verset 13, le ministère des prophètes de l'Ancien Testament, y compris Hénoc, Matthieu 15, verset 7, Marc 7, verset 6, 1 Pierre 1, verset 10, Jude, verset 14, et la prédiction de Joël concernant l'effusion du Saint-Esprit et la capacité des croyants à prophétiser par la suite. Acte 2, verset 17-18. Dans le Nouveau Testament, certaines personnes prophétisèrent sans nécessairement être des prophètes. On peut citer Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Luc 1, verset 67, et Caïphe, le grand prêtre, Jean 11, verset 51. D'autres personnes affirmaient prophétiser au nom de Jésus, Matthieu 7, verset 22, mais il s'agissait parfois de faux prophètes, Matthieu 7, verset 15. Le récit de la Passion révèle que Jésus fut l'objet de moqueries et de sarcasmes, et on le mit au défi de prophétiser, Matthieu 26, verset 68, Marc 14, verset 65, Luc 22, verset 64. Le ministère des filles de Philippe, Acte 21, verset 9, le ministère de représentation de Jean, décrivant la tâche de tous les croyants à la fin des temps, Apocalypse 10, verset 11, et le ministère des deux témoins, Apocalypse 11, verset 3, sont aussi mentionnés. Le texte d'Acte 19, verset 6, et la cérémonie de baptême et l'effusion du Saint-Esprit, ainsi que le fait que les personnes présentes se mirent à parler en langue et à prophétiser, nous rappellent la Pentecôte. C'est dans la première épître aux Corinthiens que l'on trouve le plus grand nombre d'occurrences du verbe « prophétiser ». Il y est question du don spirituel consistant à prophétiser. 1 Corinthiens 11, versets 4, 5, 13, versets 9, 14, versets 1, 35, 24, 31, 39. Ainsi, prophétéo dans le Nouveau Testament évoque le phénomène consistant à prophétiser dans l'Ancien Testament, mais surtout ce qu'il se passe dans le Nouveau Testament. Le don de prophétie était actif à l'époque du Nouveau Testament. Comme le déclare Schnell, le discours prophétique est une composante normale de la vie à l'époque de la première Église chrétienne. Le mot prophétique, prophétikos. L'adjectif prophétikos, prophétique, apparaît deux fois dans le Nouveau Testament. Et pourtant, il est important dans la mesure où il décrit les écrits prophétiques. Romains 16, verset 26, et la parole prophétique. 2 Pierre 1, verset 19. Comme les autres termes, il est étroitement associé à la Bible, et il la décrit. L'expression « faux prophète », « pseudo-prophétesse »,
les mots de la famille du terme « prophète » peuvent faire référence à la fois au véritable prophète ou au faux prophète en fonction du contexte. Mais on trouve aussi dans le Nouveau Testament le terme « pseudo-prophétesse », « faux prophète », qui montre clairement que le don divin de prophétie peut être imité et qu'il doit être évité. Les faux prophètes sont mentionnés à 11 reprises dans le Nouveau Testament. Jésus déclara que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes, Luc 6, verset 26. Il mit en garde ses contemporains contre les faux prophètes, Matthieu 7, verset 15, et annonça que d'autres allaient apparaître, Matthieu 24, verset 11-24, Marc 13, verset 22. Le texte d'Acte 13, verset 6, mentionne le faux prophète juif portant le nom de Bar-Jésus au 1er siècle. Le texte de 2 Pierre 1, verset 21, explique que le Saint-Esprit touchait les porte-paroles de Dieu, mais le verset suivant mentionne au contraire les faux prophètes introduisant des hérésies, 2 Pierre 2, verset 1. Jean confirma que, parmi sa génération, beaucoup de prophètes de mensonges étaient sortis dans le monde. 1 Jean 4, verset 1. Le livre de l'Apocalypse va plus loin encore. Il y a non seulement des faux prophètes, mais aussi le faux prophète, le point culminant de toutes les fausses prophéties, la bête d'Apocalypse 13, Apocalypse 16, verset 13, 19, verset 20, 20, verset 10. Quand viendra la crise finale, le dragon satanique, l'antichrist et le faux prophète, à savoir la bête venant de la terre, s'opposeront au Seigneur et Christ véritable. Il est intéressant de noter que l'évangile de Jean et le livre de l'Apocalypse se concentrent sur les figures majeures du grand conflit, alors que les épîtres de Jean mentionnent les acteurs mineurs, les antichrists et les faux prophètes, en plus du personnage principal, l'antichrist. 1 Jean 2, versets 18, 22, 4, verset 3, 2 Jean 1, verset 7. Les prophètes du Nouveau Testament qui ne sont pas appelés directement des prophètes. Dans notre étude sur les prophètes du Nouveau Testament, nous avons mentionné certaines personnes qui sont appelées des prophètes. Parmi elles, nous trouvons Jean-Baptiste, Matthieu 11, verset 19, Anne, Luc 2, verset 36, Jésus, Luc 24, verset 19, Judas et Silas, Acte 15, verset 32, et Agabos, Acte 21, verset 10. Jean-Baptiste rappela à ses contemporains les prophètes du passé en appelant les gens à la repentance. Pourtant, en tant que précurseur et héros de l'histoire du salut divin, la venue du Messie, il fut plus qu'un prophète. Agabos est mentionné deux fois dans le livre des Actes. Nous en savons moins sur lui que sur Jean-Baptiste, dont le récit de la naissance miraculeuse est relaté dans Luc 1 et dont la mort horrible est évoquée dans Matthieu 14, verset 11. Concernant Agabos, nous connaissons deux prédictions qu'il avait faites et qui s'accomplirent. Une grande famine, Acte 11, verset 28, et l'emprisonnement de Paul, Acte 21, verset 11. Cependant, dans le Nouveau Testament, nous rencontrons d'autres prophètes qui ne sont pas nommés. Nous avons peu d'informations, voire aucune, sur leurs activités. Un groupe est mentionné dans Acte 11, verset 27. Des prophètes et des enseignants
consacrèrent Paul et Barnabé pour le ministère. Actes 13, versets 1 à 3. Manifestement, il s'agissait de Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen et Saul. Bock déclare ceci. Dans ce cas précis, ces cinq personnes semblent avoir un double rôle de prophète et d'enseignant. La distinction entre ces deux rôles n'est pas claire, et on ne sait pas qui faisait quoi. Les filles de Philippe ne portent pas le nom de prophète ou prophétesse. Nous savons simplement qu'elles prophétisaient et qu'elles accomplirent ainsi leur mission. Acte 21, verset 9. Dans cet exemple, au moins un terme de la famille du mot prophète est employé. L'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse, est un autre exemple. Il n'emploie pas spécifiquement le mot prophétesse pour parler de lui-même, mais il affirme néanmoins écrire des prophétéia. Apocalypse 1, verset 3, 19, verset 20, 22, verset 7, 10, 18, 19, et appartenir au groupe des prophétéia. Apocalypse 22, verset 9. Jean emploie aussi des termes relatifs à la vue et à l'audition pour décrire la manière dont il recevait les révélations divines. J'entendis, Apocalypse 1, verset 10, je vis, Apocalypse 5, verset 1. Un voyage spirituel est également mentionné, Apocalypse 4, verset 1, 2. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jean employa l'expression Zaoé Aei, voici ce que dit, Apocalypse 2 et 3. Cependant, le mot « prophète » est parfois totalement absent et la personne concernée est pourtant un prophète. Par exemple, Paul n'est pas désigné par le terme « prophète », mais c'est certainement ce qu'il était. Son rôle ne consistait pas seulement à exhorter, à réconforter et à faire réfléchir les membres d'église ou à bâtir l'église, mais il fit différentes prophéties concernant par exemple l'homme de l'impiété, 2 Thessaloniciens 2, TOB, la résurrection à venir, 1 Corinthiens 15, et le retour du Christ, 1 Thessaloniciens 4. Dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 7, il parle de lui et il déclare avoir eu des visions et des révélations divines. Paul était un apôtre, mais aussi un prophète. Cela s'applique-t-il également à Pierre et aux autres apôtres? Nous ne le savons pas précisément, mais le fait que certains mots ne soient pas employés ne signifie pas que ces hommes n'avaient pas reçu le don de prophétie. Il faut prendre en considération le fait que, bien souvent, le récit de leur vie est très incomplet. Pierre ne nous a laissé que deux courtes lettres. Ainsi, nous en savons bien moins sur lui que sur Paul. Dans sa deuxième épître, il nous donne des informations sur ce qui se produira le jour du Seigneur, ou jour du jugement, 2 Pierre 3. Il s'agit donc d'une prophétie, très probablement basée sur une révélation divine. Dans 2 Pierre 1, verset 14, Pierre évoque sa mort imminente et il précise « Comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a lui-même appris. » Jésus avait parlé de la mort de Pierre dans Jean 21, versets 18-19. Cependant, il avait simplement évoqué l'âge avancé de Pierre, mais sans mentionner l'imminence de sa mort. Ainsi, dans 2 Pierre 1, verset 14, l'apôtre fait probablement référence à une révélation spéciale venant de la part du Seigneur. Le terme « déloo » peut être traduit par « rendre clair »,« révéler »,« montrer » ou « donner des informations ». Dans les textes d'Exode 6, verset 3 et Daniel 2, verset 28 à 30 de la Septante, ce verbe fait référence à une révélation. Étant donné qu'il s'agit de la prédiction de la mort de quelqu'un, nous devrions placer l'emploi de ce terme dans le contexte d'une révélation divine. Ces éléments peuvent justifier le fait que Pierre soit considéré comme un prophète. Résumé. Nous pouvons résumer ainsi les conclusions de notre étude. 1. La prophétie est un sujet important dans le Nouveau Testament. Il est lié à Dieu, à sa révélation et au désir de Dieu de communiquer avec les êtres humains, et notamment avec ses enfants, par l'intermédiaire des prophètes. 2. Les prophètes mentionnés et décrits dans le Nouveau Testament sont des prophètes de l'Ancien Testament, des prophètes du Nouveau Testament et Jésus, le prophète par excellence. Il incarne la fonction de prophète de façon parfaite. 3. Dans les écrits de Paul, les prophètes sont associés au sujet de l'ecclésiologie. Le ministère des prophètes est l'un des dons spirituels. En fait, Le don de prophétie est la seule constante dans les listes de dons établies par Paul. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11, 28 à 30, 13, versets 1, 2, Romains 12, versets 6 à 8. Le don de prophétie fait partie des dons les plus importants. L'Église est bâtie sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Éphésiens 2, verset 20. Ainsi, les prophètes exercent un ministère essentiel. 4. Les prophètes peuvent être des hommes ou des femmes. Leur présence et leur activité étaient étendues, voir Actes 20, versets 23, 21, versets 10, 11. Ils travaillaient dans le cadre de l'Église. 5. Le message des véritables prophètes était transmis de façon orale, voir Agabos, ou écrite, voir Jean et l'Apocalypse. Les écrits prophétiques peuvent être canoniques ou non. La seconde épître de Paul aux Thessaloniciens est un exemple de prophétie canonique, et la lettre de Paul aux Laodicéens, Colossiens 4, verset 16, est un exemple de prophétie non canonique. Manifestement, les prophéties non canoniques provenant de prophètes véritables font autorité, de la même manière que les messages prophétiques oraux. 6. Le terme « prophétie » fait référence et est lié au livre de l'Apocalypse, au Nouveau Testament et aux Écritures dans leur intégralité. L'esprit de prophétie est le Saint-Esprit qui s'exprime grâce au don de prophétie, à savoir le ministère et les messages des prophètes authentiques, y compris celui d'Ellen G. White, selon les adventistes du septième jour. 7. Le Nouveau Testament insiste sur l'importance des véritables prophéties, et il met également les lecteurs en garde contre les faux prophètes et leurs hérésies. Il nous donne des critères permettant de faire la distinction entre les véritables prophètes et les faux prophètes. L'Apocalypse va plus loin encore et évoque le faux prophète par excellence qui est à l'origine de toutes les fausses prophéties et qui sera impliqué dans le conflit final entre les puissances divines et les agents sataniques. 8. Bien que les mots prophète, prophétie et prophétiser soient fréquemment associés aux prophètes de Dieu, d'autres termes ou d'autres concepts sont employés dans le Nouveau Testament pour identifier certaines personnes comme de véritables prophètes. Qu'ils portent ce nom ou pas, un prophète reçoit des révélations divines qu'il transmet au peuple de Dieu ou à l'humanité. 9. Le moment est venu de faire une pause. En effet, lorsque nous parlons du don de prophétie, nous devons également évoquer le dispensateur de ce don, le Saint-Esprit. Comme nous venons de le dire, il est appelé Esprit de prophétie dans l'Apocalypse. Il est très présent dans ce livre, notamment avec l'expression associée de témoignage de Jésus. Par exemple, l'activité du Saint-Esprit en tant qu'esprit de prophétie est manifeste à la fin des messages adressés aux sept églises. En effet, on peut lire l'expression « ce que l'Esprit dit aux églises », voir par exemple Apocalypse 2, verset 7. L'esprit de prophétie, même s'il n'est pas appelé ainsi, est également très actif dans le livre des Actes. Il est associé à des termes appartenant à la famille du mot « prophète » dans Actes 2, verset 17, 18, 19, verset 6, 28, verset 25. Le Saint-Esprit parla, l'ego, à Philippe, acte 8, verset 29. À Pierre, acte 10, verset 19, 11, verset 12, 13, et au prophète d'Antioche, acte 13, verset 1, 2. Il parla, l'aléo, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, acte 28, verset 25. D'un autre côté, Paul et Timothée furent empêchés par l'Esprit-Saint de dire la parole en Asie, acte 16, verset 6. Le Saint-Esprit témoigna, diamartyromai, auprès de Paul. Mais le Saint-Esprit ne parlait pas uniquement aux prophètes, il parlait également par leur intermédiaire. Il prédit, prolégo, des choses et parla, légo, par la bouche de David, acte 1, verset 16, 4, verset 25. Enfin, Agabos s'adressa ainsi à Paul. « Voici ce que dit l'Esprit-Saint. » Acte 21, verset 11. Ainsi, la source de toute véritable prophétie est le Saint-Esprit. Lien entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. De nombreuses personnes s'interrogent sur le lien entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. C'est un sujet discuté. Grudem a tenté de trouver un terrain d'entente qui puisse être acceptable à la fois pour ceux qui croient que le véritable don de prophétie a cessé d'exister et pour les charismatiques qui pensent que ce don est toujours très actif. Il considère qu'il y a une différence significative, et donc une discontinuité, entre les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Selon lui, les prophètes de l'Ancien Testament étaient infaillibles, alors que ceux du Nouveau Testament ne l'étaient pas. Il affirme qu'à l'époque du Nouveau Testament, le terme grec « prophétesse », « prophète », avait une grande variété de significations. Il n'avait généralement pas le sens de « celui qui prononce les paroles mêmes de Dieu », mais plutôt « celui qui parle en raison d'une influence extérieure ». Et il ajoute « dans le Nouveau Testament, il y a de nombreuses indications montrant que le don de prophétie ordinaire avait moins d'autorité que la Bible, et même moins que les enseignements bibliques reconnus de l'Église primitive. » Il prend l'exemple du texte d'Éphésiens 2, verset 20, qui parle des fondations constituées par les apôtres et les prophètes, et conclut qu'il ne s'agit que d'un seul groupe de personnes, car les prophètes ne peuvent pas être sur le même plan que les apôtres. Il affirme également que le prophète Agabos se trompa, acte 21, versets 10, 11. Les arguments de Grudem furent sérieusement étudiés et largement critiqués par un certain nombre de biblistes et de théologiens. Par exemple, Akin souligne ceci. Grudem ne donne pas d'éléments exégétiques permettant de faire la distinction entre les prophètes du Nouveau Testament faisant erreur et les prophètes et apôtres inspirés. N. Geisler est en désaccord avec W. Grudem. Il affirme qu'il y a une continuité entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Thomas reprocha à Grudem de trahir le texte du Nouveau Testament. Les indications bibliques semblent montrer une continuité certaine entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Certes, nous trouvons des éléments indiquant une certaine discontinuité, mais ils ne remettent pas en question cette continuité. Éléments de discontinuité. L'une des différences entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament est le fait qu'une nouvelle ère débuta avec la venue du Messie. Comme le déclara Jésus, le royaume de Dieu était désormais présent au milieu des hommes, Luc 17, verset 21. Cela suscita des changements significatifs dans la société, au sein du peuple de Dieu et dans le culte rendu à Dieu. Jésus était la figure ultime des prophètes. L'impact qu'il exerçait, que ce soit sur les foules, Matthieu 21, verset 11, Marc 6, verset 15, 8, verset 28, Luc 7, verset 16, ou sur les individus, Luc 7, verset 39, Matthieu 26, verset 68, Jean 4, verset 19, 9, verset 17, étaient tels qu'ils leur donnaient le sentiment d'être en présence d'un prophète. Fisichella mentionne 5 points permettant de considérer Jésus comme un prophète. A. Jésus interprétait les Écritures sacrées. B. Il faisait des prophéties. C. Il accomplissait des actes prophétiques. D. Il prédit sa passion et sa glorification. E. Il était visionnaire. Pourtant, il surpassait tous les prophètes. Jésus n'était pas totalement différent des prophètes de l'Ancien Testament, mais il ne pouvait être réellement comparé à eux. Jésus-Christ était unique, tout comme l'était son ministère. Jésus agissait toujours et seulement de son propre fait, et pour un prophète, ceci était impensable. En étudiant le sujet des prophéties, nous devons nous demander de quelle façon le don de prophétie fut redéfini. Le don de prophétie culmina en Jésus, l'homme de l'Esprit, comme jamais cela ne s'était produit avant ni ne se produisit après. Son appel à la repentance avait un caractère d'urgence et de radicalité, comme nous le voyons par exemple dans le Sermon sur la montagne. Il en était de même concernant son appel à l'amour. Jésus ne se contenta pas de communiquer un message divin. Il était l'incarnation de ce message, le représentant parfait du Père et un membre de la Trinité. Il voulait que tous les êtres humains deviennent ses disciples et que leur vie change totalement. Jésus ne se contenta pas d'annoncer la possibilité du salut, car il est le Sauveur. Il ne parla pas seulement du jugement, car il est le Juge. Il y avait une cohérence parfaite entre la vie de Jésus et son message, car Jésus était sans péché. Ce n'était pas le cas des autres prophètes. Avant la venue du Messie, la société juive et le peuple de Dieu formaient un tout. Mais cela changea avec la présence de Jésus. les gens furent appelés à prendre position pour lui ou contre lui. Ceux qui acceptèrent Jésus comme le Christ formèrent donc son ecclésia, son église, Matthieu 16, verset 18, et son troupeau, Jean 10, verset 16. Ce troupeau ne se limitait pas aux Juifs, mais était également composé des gentils. La façon dont cela arriva est ce que Paul appelle un mystère, Éphésiens 3, versets 4 à 6. Un nouvel Israël fut créé, et cela eut un impact sur les prophètes du Nouveau Testament. La venue du Messie eut aussi un impact sur le service du culte et rendit obsolètes les services du temple, les sacrifices et le rôle des prêtres. Une nouvelle forme d'adoration se développa, ainsi qu'une nouvelle forme de gestion d'église. Le ministère des prêtres trouva son accomplissement dans le ministère de Jésus et prit donc fin. La communauté des croyants était la nouvelle prêtrise. Une démocratisation de l'esprit se produisit à la Pentecôte, quand Jésus accorda l'Esprit à tous les croyants. Certains furent appelés à servir en tant qu'apôtres, d'autres en tant qu'anciens, diacres et pasteurs-enseignants. Ces changements concernèrent également le ministère prophétique de l'époque du Nouveau Testament. Les prophètes se concentrèrent davantage sur Jésus, sa vie, ses paroles et ses actes que les prophètes de l'Ancien Testament ne s'étaient concentrés sur le Messie. C'est dans ce sens que nous pouvons déclarer qu'une sorte de discontinuité ou de changement se produisit lors de ce changement d'ère, du passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Une continuité manifeste. Pourtant, en dépit d'une certaine discontinuité, on constate qu'il y a une continuité manifeste entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Voici quelques exemples. Figure prophétique. Avec Jean-Baptiste, la lignée des prophètes célèbres de l'Ancien Testament interrompue par la période intertestamentaire se poursuivit. Son apparence, ses vêtements, son mode de vie, mais aussi son message, rappelèrent à ses contemporains certains prophètes de l'Ancien Testament. En le voyant, les gens pensaient à Élie, et pourtant il était plus qu'Élie. Il prépara la voie pour la venue du Messie. John W. Hilbert rappelle ceci. La transition majeure qui se produisit aux alentours de la venue du Messie et de la création de son Église fut accompagnée par une intensification de l'activité prophétique. Les déclarations qui accompagnèrent la naissance de Jésus correspondent, par leur forme et leur fonction, aux prophéties de l'Ancien Testament. Agabos accomplit un acte symbolique, acte 21, versets 10-11, comme le firent par exemple Jérémie et Ézéchiel, Jérémie 13, Ézéchiel 12, 25. Et Jean, le révélateur, Apocalypse 10, versets 8 à 11, 11, verset 1. Ces prédictions de l'avenir s'accomplirent, ce qui est la marque d'un véritable prophète, selon l'Ancien Testament. Les prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament apparaissent souvent dans le Nouveau Testament, et leur message est essentiel non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Tous les thèmes théologiques majeurs de l'Ancien Testament sont abordés également dans le Nouveau Testament, à commencer par la révélation de la divinité, la création, le péché, l'anthropologie, le salut, l'alliance, la loi, le jugement et l'eschatologie, pour n'en nommer que quelques-uns. Le Nouveau Testament contient d'innombrables citations, allusions et éléments de l'Ancien Testament. Prophétesse et ses dérivés sont utilisés dans diverses expressions soulignant l'accomplissement des prophéties dans les citations des prophètes de l'Ancien Testament. L'approche typologique permettant de comprendre les Écritures, tout d'abord employée dans l'Ancien Testament, l'est aussi dans le Nouveau Testament, et ces deux parties des Écritures sont liées par cette approche. Le fait que les prophètes soient des fondements essentiels du Nouveau Testament est exprimé dans Éphésiens 2, verset 20. Ainsi, les prophètes ne devraient pas être considérés comme des prophètes de l'Ancien Testament, mais comme des prophètes du Nouveau Testament. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul montre clairement qu'il considère les prophètes comme des prophètes du Nouveau Testament, les associant toujours, tout en les distinguant, avec les apôtres et faisant référence au premier siècle après Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 20, 3, verset 5, 4, verset 11. Les prédictions de l'Ancien Testament s'accomplissent, notamment les prédictions messianiques ou la prédiction concernant l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair, y compris le don de prophétie. Joël 2, verset 28, et Acte 2, notamment le verset 17. le même esprit qui animait les prophètes de l'Ancien Testament doit revenir. Il y eut donc une restauration du don de prophétie tel qu'il existait dans l'Ancien Testament. Farnell conclut ainsi. Il est très significatif que Pierre ait associé le début des prophéties du Nouveau Testament au phénomène prophétique de l'Ancien Testament. Le mot « prophétiser » utilisé par Pierre dans Actes 2, verset 17, est aussi utilisé dans la Septante pour Joël 3, verset 1, ou 2, verset 28 dans les autres versions. Par conséquent, Joël 2 et Joël 3 permettent d'établir une continuité entre les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Langage et expérience prophétique. La terminologie, les mots de la famille du terme « prophète », déjà utilisé dans la Septante, apparaît dans le Nouveau Testament, sans qu'il y ait pour autant des déclarations ou des allusions au fait qu'un changement se soit produit. On retrouve des révélations prophétiques et des expressions telles que « et je vis » (ka eidon) et « j'entendis » (kai ekousa) « ainsi parle l'Éternel » (tade legei kyrios) ainsi que des références à des visions, des rêves et parfois à un ange qui accompagne le prophète. On trouve à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament le même genre relatif aux prophéties classiques et aux prophéties apocalyptiques. Dans les deux testaments, on note un élément de conditionnalité dans le cas des prophéties classiques. Jérémie 18, versets 7 à 10, Ésaïe 65, Apocalypse 2, verset 7. Les parties apocalyptiques de Daniel et de l'Apocalypse ont de nombreux éléments en commun, tels que la richesse des symboles, un intérêt pour la nature progressive de l'histoire du monde et une dimension cosmique. Appel divin et reconnaissance par la communauté.
L'Ancien Testament souligne fréquemment que les prophètes sont appelés par Dieu. Les prophètes n'étaient pas des personnages mystiques aspirant à une union totale ou une fusion avec le divin. Il s'agissait de personnes qui croyaient en Dieu, respectaient sa volonté et voulaient probablement être proches de lui, mais qui avaient conscience du fossé existant entre l'humanité déchue et la transcendance divine. Ils ne s'efforçaient pas de devenir prophètes, ils étaient appelés à l'être par Dieu, et bien souvent, ils tremblaient en réfléchissant aux responsabilités décolletant de cet appel. Exode 3, Jérémie 1. L'Ancien Testament n'indique pas toujours clairement que les prophètes recevaient un appel spécifique. Dans certains cas, les prophètes apparaissent sur la scène de l'histoire, accomplissent leur ministère et disparaissent. Cependant, les prophètes majeurs vécurent une rencontre particulière avec Dieu au cours de laquelle il leur confia une mission. On peut citer Moïse, Exode 3, Samuel, 1 Samuel 3, Nathan, 2 Samuel 7, verset 4, 5, Ésaïe, Ésaïe 6, Jérémie, Jérémie 1, Ézéchiel, Ézéchiel 2, et Amos, Amos 7, versets 14 à 17. Certains prophètes affirmaient aussi avoir reçu les paroles du Seigneur. David savait que Dieu parlait par son intermédiaire, 2 Samuel 23, versets 2, 3. Abdias 1 et Nahum 1, verset 1, mentionnent des visions et des messages divins qui leur étaient transmis. On peut donc dire que, d'une façon ou d'une autre, tous les véritables prophètes de l'Ancien Testament furent appelés par Dieu. On trouve également des appels prophétiques dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit avant même sa naissance. Luc 1, versets 13 à 15, et sa mission de prophète fut annoncée dans une déclaration prophétique de son Père. Luc 1, versets 67-76. Paul vécut une expérience particulière à Damas. Acte 9, versets 15 à 17, 22, versets 14 à 21, 26, versets 15 à 18. Et l'apôtre Jean fut appelé dans une vision relatée dans Apocalypse 1. Les prophètes n'œuvraient pas pour eux-mêmes, mais pour la communauté. Ainsi, il était important que la communauté des croyants reconnaisse le don de prophétie. D'après les deux testaments, les prophètes devaient être testés de façon à ce que les croyants sachent s'il s'agissait de véritables prophètes ayant un message divin à transmettre. L'Ancien et le Nouveau Testament précisent quels étaient les critères à appliquer. Newton propose une liste de critères bibliques impressionnante, montrant que l'on trouve les mêmes critères
ou des critères similaires dans les deux testaments. Ces critères comprennent la christologie, la communauté, le caractère, les défis, la réalisation, le fait de devenir vrai, la confirmation, preuve surnaturelle, la clarté, le contenu, constructif et bénéfique, la compassion et le contrôle, protocole. Il est clair que ces critères ne devaient pas tous être utilisés dans tous les cas, mais un prophète ou une prophétie ne correspondant à aucun d'entre eux était suspect. Outre ces critères permettant d'établir si une personne affirmant avoir le don de prophétie est un véritable prophète ou un faux prophète, Dieu a accordé le don du discernement à la communauté des croyants. 1 Corinthiens 12, verset 10, afin que les faux prophètes puissent être distingués des véritables prophètes. Là encore, on observe une continuité entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Les critères d'évaluation des prophètes du Nouveau Testament sont comparables aux conseils donnés dans l'Ancien Testament. La vie des prophètes. C'est l'appel divin qui fait d'une personne un prophète, et cet appel resserre encore la relation que cette personne entretient avec Dieu. En d'autres termes, Dieu entretient une relation particulière avec les prophètes et leur vie est transformée. 1 Samuel 10, verset 6. Galates 2, verset 20. Cela ne signifie pas que Dieu contraint une personne à devenir prophète. Jonas pouvait échapper à la tâche prophétique que Dieu voulait lui confier, et Balaam refusa le message de Dieu et devint une cause d'apostasie en Israël. Le ministère prophétique peut être à la fois un fardeau et une joie. Le prophète passe par des difficultés et rencontre des problèmes, comme le souligne A. Eschel. Être un prophète est à la fois gratifiant et difficile. La mission qu'il accomplit lui pèse et répugne à son entourage. Aucune récompense ne lui est promise et aucune récompense ne pourrait apaiser son amertume. Le prophète est l'objet de mépris et de reproches. Jérémie 15, verset 15. Il est considéré comme un fou par ses contemporains et comme une personne anormale par certains biblistes modernes. Pourtant, ce n'est pas le rejet du message prophétique par une grande partie de la communauté de foi qui attriste les prophètes, mais surtout les conflits qu'ils vivent avec les faux prophètes, voir par exemple Jérémie 23, 28, 29. Comme dans l'Ancien Testament, le conflit est un thème majeur des prophéties du Nouveau Testament. Jésus déclara que de faux prophètes allaient se présenter, Matthieu 7, verset 15, Marc 13, verset 22. Et Paul connut des conflits prophétiques au moins une fois lors de ses voyages, Actes 13, verset 6. La première et la deuxième épître de Jean témoignent des luttes intenses dans lesquelles Jean s'engagea avec des faux prophètes, appelés Antichrist. Le combat contre les faux enseignements et les fausses prophéties est très présent dans de nombreux livres du Nouveau Testament, par exemple 2 Pierre 2, Jude, 1 Timothée 1, verset 3, 4, 6, verset 3 à 5, 20. Dans Apocalypse 2, verset 20, on voit même apparaître la fausse prophétesse symbolique Jézabel. Pourtant, en dépit des conflits, les prophètes peuvent aussi chanter. « Tes paroles se trouvaient là, et je les ai dévorées. Ta parole a fait la gaieté et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Seigneur, Dieu des armées. » Jérémie 15, verset 16. Ils disent également « Amen, viens Seigneur Jésus » Apocalypse 22, verset 20. Révélation, inspiration et transmission des messages. Les prophéties et les révélations divines sont étroitement liées. Après avoir appelé un prophète, Dieu l'a tiré sans cesse à lui, désirant vivre de véritables rencontres avec lui. Lors de ces rencontres, Dieu se révélait au prophète et lui révélait également sa volonté et son message. Eschel dit avec beaucoup de pertinence « Ce n'est pas Ésaïe qui fit des prophéties, ce sont les prophéties qui firent Ésaïe. » Cela se vérifie probablement pour tous les véritables prophètes. Nous avons déjà mentionné les expériences des prophètes qui utilisèrent des expressions telles que « Je vis » Daniel 7, verset 2, Luc 10, verset 18, Apocalypse 1, verset 17. « J'entendis » Ésaïe 6, verset 8, Actes 11, verset 17, Apocalypse 1, verset 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie 1, verset 4. La main du Seigneur était sur moi / sur lui. Ézéchiel 3, verset 22, Luc 1, verset 66. Les révélations divines se produisaient par exemple lors de visions et de rêves. Nombre 12, verset 6, Apocalypse 4, verset 1. Ainsi que par des paroles. 1 Samuel 3, Apocalypse 12, verset 10. Ou par l'intermédiaire d'un ange. Daniel 9, versets 20 à 23, Luc 1, versets 11, 12, Apocalypse 19, verset 9. Nous ne connaissons pas la nature précise de ces révélations, ni la fréquence à laquelle les prophètes recevaient ces révélations extraordinaires. La deuxième phase du processus de révélation est la transmission par les prophètes de ces messages directs et personnels. D'une certaine façon, les prophètes étaient des médiateurs entre Dieu et ses enfants, voire entre Dieu et l'humanité au sens large. Ils étaient ses porte-paroles. Lors de la proclamation de ces messages divins, de façon orale, par des actions symboliques ou par des écrits, les prophètes étaient animés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils étaient inspirés. 2 Pierre 1, versets 20-21. Ils exprimaient la vérité reçue avec leurs propres mots, mais le message était la parole de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire en utilisant des expressions telles que « Ainsi parle le Seigneur » Ésaïe 43, verset 14. Il y a parfois une troisième étape que l'on appelle « inscripturation ». Dieu demandait aux prophètes d'écrire leur message. Jérémie 36, verset 27-28. Apocalypse 1, verset 19. Dieu guidait l'esprit dans le choix de ce qui devrait être dit et écrit. Les révélations inspirées prenaient forme dans un livre inspiré. Les textes bibliques concernant cette réflexion sur la révélation, l'inspiration et la transmission nous montrent qu'il y a une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sur le sujet du ministère prophétique. Le contenu du message. Certains biblistes considèrent qu'il y a une absence de continuité entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament en raison de leur contenu et de l'approche adoptée. R. Fisichella insiste sur le fait que les prophéties du Nouveau Testament sont très différentes de celles de l'Ancien Testament. Il déclare que, dans le Nouveau Testament, toute forme de crainte, de jugement et de condamnation a disparu. Enfin, le fait de considérer la révélation à la lumière des prophéties implique d'en souligner son sens, à savoir l'amour et la compassion de Dieu. Les prophéties ne sont jamais données sous forme de condamnation, de jugement ou de menace suscitant la crainte. Au contraire, elles consistent exclusivement à prononcer des paroles d'encouragement, de confiance et d'espoir. Il en est prétendument ainsi en raison de la restauration de la relation entre Dieu et l'humanité grâce à la mort de Jésus sur la croix. On trouve donc des paroles de condamnation avant sa crucifixion et sa résurrection. Cependant, cette approche soulève de nombreuses questions au sujet du message de Christ adressé aux sept églises de l'Apocalypse. On y trouve des menaces de jugement, Apocalypse 2, versets 5, 1, 20 et 1, 22, 3, versets 16, 14, versets 6 à 12. Des paroles de jugement avec les trompettes et les plaies, la mention de la destruction de Babylone, qui est une alliance religieuse mondiale, la condamnation de ceux qui persistent dans le vice, Apocalypse 21, verset 8, 22, verset 15, et la destruction des puissances mauvaises et des incroyants dans un lac de feu, Apocalypse 19, verset 20, 20, verset 11 à 15. Dans Galates 1, verset 8, Paul parle de condamnation éternelle pour ceux qui s'opposent à l'Évangile. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 12, il déclare que ceux qui n'aiment pas la vérité périront. 2 Pierre et Jude mentionnent ceux qui prodiguent de faux enseignements dans l'Église et le sort qui leur est réservé. Le salut est clairement mis en avant, ainsi que les conséquences du rejet du Christ et de ses messages. Les prophéties de l'Ancien Testament décrivent également les bénédictions du salut et les malédictions qui découlent du rejet du Seigneur Dieu. Les prophéties et les Écritures. Voici ce que nous apprend l'étude des Évangiles concernant la position de Jésus par rapport à la parole de Dieu qui existait de son temps, à savoir l'Ancien Testament. Jésus faisait totalement confiance aux Écritures. Pour lui, l'Ancien Testament était la parole de Dieu. Il considérait les prophètes comme des messagers fiables de la parole de Dieu. Ils étaient inspirés par Dieu. De nombreuses prophéties furent accomplies en lui. Jésus reconnaissait la fiabilité historique des Écritures et il croyait que la volonté et l'œuvre de Dieu étaient manifestes en elles. Les enseignements bibliques sont fondés sur l'Ancien Testament. De plus, l'Ancien Testament, à savoir la Bible de l'époque de Jésus, est le critère permettant d'évaluer le comportement éthique et les attitudes de Jésus. Les Écritures ont une valeur pratique. Elles suscitent la foi et sont une arme contre les tentations. Dans 2 Pierre 1, versets 19 à 20 et 1, Pierre aborde ce sujet. Dans ce passage, l'expression « parole prophétique » semble être similaire à l'expression « message de prophète ». Manifestement, ces expressions décrivent la parole de Dieu, du moins tout l'Ancien Testament. Le rôle de l'Esprit de Dieu dans l'inspiration des prophètes de l'Ancien Testament est bien connu. Le texte de 2 Pierre 1, versets 20 et 1 le montre bien. Cependant, les écrits du Nouveau Testament peuvent être indirectement inclus dans cette déclaration. Le terme « graphé », « écriture », se trouve 2 fois dans 2 Pierre 1, versets 20 et 3, versets 16. Le verbe « grapho », écrire, s'y trouve également 2 fois. 2 Pierre 3, versets 1, 15. Nous avons le message de prophète dans l'Écriture. 2 Pierre 1, verset 20. Pierre a écrit ses lettres. 2 Pierre 3, verset 1. Ainsi que Paul, verset 15. Mais dans ce chapitre, il est aussi question des autres Écritures. Pluriel de graphé, verset 16. Les lettres pauliniennes sont associées aux Écritures, l'Ancien Testament. Elles sont considérées comme des œuvres canoniques, tout comme l'Ancien Testament. Green souligne ceci. Très tôt dans l'Église primitive, le concept d'Écriture fut élargi et prenait en compte les enseignements de Jésus. 1 Timothée 5, verset 18, voire Matthieu 10, verset 10, Luc 10, verset 7. Dans ce verset, Pierre franchit une étape de plus dans la constitution du canon, parlant des écrits de l'Ancien Testament comme des autres écritures. Il implique donc que les lettres de Paul font partie des écritures. Le texte de 2 Pierre 3, verset 2, parle des saints prophètes et de la proclamation du commandement du Seigneur par les apôtres. Si les saints prophètes sont les prophètes de l'Ancien Testament, alors nous avons un autre passage de 2 Pierre indiquant qu'il y a une parole canonique faisant autorité outre l'Ancien Testament. Dans le cadre de notre étude, il convient de souligner que dans 2 Pierre, la parole prophétique est l'Ancien Testament, mais qu'elle inclut également des auteurs comme Paul, qui était un apôtre et qui avait le don de prophétie. Cela confirme qu'il y a une continuité entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Farnell va dans ce sens et déclare « Les prophètes et les prophéties du Nouveau Testament étaient dans la droite ligne de leurs homologues de l'Ancien Testament qui proclamaient le message et la volonté de Dieu au peuple. » Ainsi, les prophéties du Nouveau Testament sont le développement et la suite des prophéties de l'Ancien Testament. Résumé. Certes, il y a une certaine discontinuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, y compris concernant les prophéties, mais il y a davantage d'éléments soulignant la continuité entre le don de prophétie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. En effet, nous trouvons des figures prophétiques similaires et des expériences de vie similaires chez les prophètes dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Des prophéties de l'Ancien Testament sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Le même vocabulaire concernant le ministère prophétique est employé dans les deux testaments. De plus, l'appel divin des prophètes et le rôle de la communauté des croyants sont similaires. À la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les prophètes reçoivent des révélations divines et ils sont inspirés. Ils transmettent leur message aux personnes concernées. Il y a une cohérence dans le message des prophètes. Les messages écrits d'un certain nombre de prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament forment le canon des Écritures. Jésus n'abrogea pas la loi, comme nous pouvons le constater dans le Sermon sur la montagne, et il fit comprendre à ses auditeurs son sens véritable. Ainsi, le don de prophétie est toujours une réalité à l'époque du Nouveau Testament, dans un sens plus large et avec un accent plus particulier sur la vie, la mort, la résurrection et les enseignements de Jésus, le Messie. La nature, le rôle et les fonctions des prophètes et des prophéties. En abordant la question du vocabulaire prophétique et de la continuité entre les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, nous avons déjà évoqué la nature, le rôle et les fonctions des prophètes et des prophéties. Dans cette partie, nous résumerons certaines remarques faites précédemment et nous aborderons quelques questions spécifiques. Point commun entre les prophètes. Les véritables prophètes ne s'autoproclamaient pas prophètes. Ils n'avaient pas recours à certaines stratégies leur permettant de transmettre un message à leur auditoire. Les véritables prophètes étaient des êtres humains appelés par Dieu et ayant une relation particulière avec lui. Ils recevaient un appel divin et un don particulier, le don de prophétie. Ce don est l'un des plus importants des dons que reçoit le peuple de Dieu. Les prophètes recevaient des révélations divines par lesquelles Dieu leur communiquait la vérité et se révélait lui-même dans le cadre d'une relation privilégiée. Les prophètes devaient transmettre les messages de Dieu sans les modifier. Cela était rendu possible par l'inspiration divine. Ceux qui relataient les faits historiques, Luc par exemple, travaillaient également sous l'inspiration divine. Ils étaient guidés par le Saint-Esprit. Par l'intermédiaire des prophètes, Dieu s'adressait à son peuple à un moment donné et dans un lieu donné, avec un message correspondant à sa situation. Cependant, ce message transcendait la situation du peuple et était pertinent pour la suite. Habituellement, le message des prophètes adressé au peuple comportait un appel à la repentance et au changement, une invitation à mener une vie sainte en étroite relation avec le Seigneur, ainsi que des paroles d'encouragement et d'espoir. Ce que dit Eschel au sujet des prophètes de l'Ancien Testament peut également s'appliquer aux prophètes du Nouveau Testament. Le but des prophéties est de vaincre la froideur, de transformer l'être intérieur et de révolutionner l'histoire. Ainsi, le devoir du prophète est de s'adresser au peuple, que celui-ci accepte ou refuse d'écouter. La vocation première d'un prophète est de « dire à Jacob sa transgression et à Israël son péché » Michée 3, verset 8. Le prophète est un guetteur, Osée 9, verset 8, un serviteur, Amos 3, verset 7, Jérémie 25, verset 4, 26, verset 5, un messager de Dieu, Agée 1, verset 13, un observateur au sein de mon peuple, pour qu'il le mette à l'épreuve, Jérémie 6, verset 27, humain, je te fais guetteur pour la maison d'Israël, tu écouteras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part, Ézéchiel 3, verset 17. Pourtant, sa véritable grandeur réside dans sa capacité à associer Dieu et l'homme dans une même pensée. La prédiction demeure un élément important des prophéties. Contrairement à certaines personnes qui ne pensent qu'au temps présent, le prophète a une vision de la fin. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui compte. Le message global des prophètes couvre le passé, le présent et l'avenir. La révélation ne doit pas comporter exclusivement des éléments prédictifs pour être miraculeuse. Le message révélé de Paul ne contient pas uniquement des éléments prédictifs, mais il concerne aussi la véritable nature de l'évangile de Jésus-Christ et la justification par la foi. Actes 9, versets 3 à 6, 20. Galates 1, versets 12, 16, 17. Les prophètes encourageaient leur auditoire à réfléchir, mais leur mission consistait aussi à encourager, réconforter et édifier. L'exemple de Paul dans la tempête décrite dans Actes 27, notamment les versets 22 à 36, est un bon exemple de prédiction, d'avertissement et d'encouragement. À première vue, cette déclaration de Witt semble étrange. Les prophéties chrétiennes ont peu de choses à avoir avec la prédiction d'événements futurs. Elles ne sont jamais orientées essentiellement vers le futur. Elles concernent avant tout le présent. Si ce n'était pas le cas, les prophéties ne pourraient pas édifier l'Église du temps des prophètes. Pour comprendre cette idée, il faut poursuivre la lecture. Il est vrai que les prophéties sont souvent orientées vers l'avenir, mais elles concernent aussi le passé, et parfois les événements du temps présent. Cependant, qu'une prophétie donnée concerne le passé, le présent ou l'avenir, elle est toujours pertinente pour le présent. De plus, presque tous les prophètes se concentrent sur l'avènement du Christ. Witt a raison lorsqu'il affirme que le message prophétique, qu'il concerne le passé, le présent ou l'avenir, a du sens et de l'importance pour l'auditoire auquel il s'adresse. Il y a quelques exceptions, comme certaines parties du livre de Daniel. Le message prophétique devait être transmis par le prophète, même s'il ne pouvait être pleinement compris par la génération présente. Il était scellé, Daniel 12, verset 4. Néanmoins, même dans ce cas, l'intention de Dieu était de s'adresser à la génération présente et de lui transmettre un message concernant son plan, sa souveraineté et sa puissance. Les prophètes étaient en étroite relation avec Dieu, mais aussi avec la communauté des croyants. Les dons spirituels, y compris le don de prophétie, étaient donnés pour l'utilité commune, 1 Corinthiens 12, verset 7, et pour un fonctionnement harmonieux du corps et de son unité, versets 12 à 26. Les dons principaux, y compris le don de prophétie, ont pour but de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, Éphésiens 4, verset 12. Les prophéties concernent même les incroyants, 1 Corinthiens 14, verset 24. Les prophéties sont un grand bienfait pour les incroyants comme pour les chrétiens, car elles informent, elles éclairent et elles convainquent. La relation qui s'établit entre le prophète et l'Église est définie entre autres par le rôle qui est confié à l'Église et qui consiste à s'assurer que le prophète est un véritable prophète et à accepter le message et le messager, si celui-ci est envoyé par Dieu. 1 Thessaloniciens 5, versets 20-21. Parmi les critères de référence, il convient de savoir si le message du prophète correspond aux prophéties faites précédemment. Dans le cas des prophètes du Nouveau Testament, il s'agit de vérifier qu'il y a une cohérence avec l'Ancien Testament. Bien que les gens comprennent généralement ce qu'est une véritable prophétie, ils n'acceptent pas toujours ses applications et ses implications. Différence entre les prophètes. Il y avait également des différences entre les véritables prophètes, mais ces différences n'affectaient pas leur autorité et leur message. Tout d'abord, beaucoup de prophètes étaient des hommes, alors que d'autres étaient des femmes. Les deux groupes étaient reconnus, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Même si les gens rejetaient leur message, la Bible les considère comme de véritables messagers de Dieu. Deuxièmement, certains prophètes transmettaient des messages oraux, alors que d'autres transmettaient des messages écrits. Certains de ces messages devinrent des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament et font partie du canon biblique. Ce n'est pas le cas pour d'autres. Cependant, cela ne signifie pas que ces messages prophétiques étaient moins fiables et que les prophètes étaient d'importance moindre. Dieu était toujours à l'origine de ces messages, mais leur portée était plus limitée. Troisièmement, le genre des messages varie. Certains prophètes écrivirent des livres de loi et d'histoire, d'autres des livres de sagesse, d'autres encore des lettres adressées à certaines églises ou certaines personnes, et d'autres de la littérature prophétique. De plus, la littérature prophétique peut être classée en deux catégories, les prophéties que l'on appelle classiques et les prophéties apocalyptiques, comme le livre de Daniel ou de l'Apocalypse. Cela signifie que certains prophètes présentent le plan de l'histoire humaine dans ses grandes lignes, du début à la fin, alors que d'autres se concentrent davantage sur des difficultés et des événements ponctuels. En fonction de la situation des personnes auxquelles ils s'adressaient, certains prophètes étaient appelés plus que d'autres à reprendre, à réprimander, à avertir les gens, à les inviter à revenir au Seigneur et à avoir un comportement juste et bienveillant. Ce n'était pas la même chose de s'adresser à une église comme Smyrne ou à une église comme Laodicée, Apocalypse 2, versets 8 à 11 et 3, versets 14 à 22. Quatrièmement, certains prophètes étaient plus appréciés que d'autres par leurs contemporains, et donc, sur un plan humain, avaient plus de succès. Parfois, le cœur des gens était endurci, alors qu'en d'autres temps, ils étaient plus ouverts et réceptifs. Ainsi, les prophètes étaient sensibles à la situation religieuse, politique et sociale de l'époque à laquelle ils vivaient. Cependant, même si Dieu tenait compte de la situation, la dimension sociale et culturelle n'altérait pas le message prophétique et son intérêt. Des prophètes congrégationalistes. Les déclarations de Paul sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 à 14 ont suscité un certain nombre de questions, notamment concernant le don de prophétie. Nous n'allons pas revenir sur la distinction établie par Grudem sur les prophètes infaillibles et faillibles dont nous avons déjà parlé. Cependant, certaines personnes maintiennent que la prophétie de 1 Corinthiens 14 est d'une nature quelque peu différente des prophéties de l'Ancien Testament et certaines du Nouveau Testament. Il s'agirait de prophéties congrégationalistes. G. Rice semble réagir à cette idée en déclarant ceci. Les prophètes du texte de 1 Corinthiens 14 versets 29 à 33 se classent dans la catégorie des prophètes ayant un message oral. Ce ne sont pas des membres d'église qui, touchés par une prédication ou un cantique, ont souhaité partager une ou deux pensées qui leur a traversé l'esprit. Ils proclamaient un message de la part de Dieu. Le texte de 1 Corinthiens 14 versets 29 à 33 fait partie intégrante du texte portant sur les dons spirituels, dont le don de prophétie. Dans 1 Corinthiens 12 se trouve une liste des dons spirituels. D'autres listes sont mentionnées dans divers écrits de Paul, par exemple Romains 12, versets 6 à 8. En réalité, il y a trois listes dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, versets 28 et versets 29 et 30. Le texte d'1 Corinthiens 13 compare le don de prophétie avec l'amour véritable, alors que le chapitre 14 compare le don des langues avec le don de prophétie. Ainsi, comment comprendre ce qu'est le don de prophétie dans ce chapitre ? Paul emploie des mots de la famille du terme « prophète » 37 fois dans ses écrits, dont 22 fois dans 1 Corinthiens. Il utilise le mot « prophète » pour évoquer les prophètes de l'Ancien Testament. Romains 1, verset 2, 11, verset 3, 1 Thessaloniciens 2, verset 15, Hébreux 1, verset 1, 11, verset 32, la partie prophétique de l'Ancien Testament, Romains 3, versets 20 et 1, et les prophètes du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 12, versets 28-29, 14, versets 29-32, deux fois, Éphésiens 2, versets 20, 3, versets 5, 4, versets 11. Dans Tite 1, verset 12, il mentionne un prophète crétois ayant sermonné les habitants de l'île de Crète qui avait la réputation d'être menteur. Les termes qu'il utilise indiquent qu'il décrit la situation d'un point de vue général, et pas uniquement selon la perspective chrétienne. Toutes les autres références aux prophètes reflètent le langage biblique et le concept de prophète. Il est intéressant de noter que dans 1 Corinthiens 12, 28-29 et dans Éphésiens 2, verset 20, 3, verset 5 et 4, verset 11, les prophètes sont mentionnés avec les apôtres et toujours en deuxième position de certaines listes parfois plus longues. Pour Paul, les prophètes font partie des fondements de l'Église, Éphésiens 2, verset 20. Ils ont reçu une révélation divine, Éphésiens 3, verset 5, et ils font partie des responsables de l'Église appelés à former les saints pour le ministère, Éphésiens 4, verset 11-12. On peut noter un parallèle entre 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30 et Éphésiens 4, verset 11. Et ceux que Dieu a disposés dans l'Église sont, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des hommes chargés de l'enseignement, 1 Corinthiens 12, verset 28, T.O.B., et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchètes, Éphésiens 4, verset 11. Le terme prophétique Romains 16, verset 26, ainsi que le terme « écrit » décrivent l'Ancien Testament, et les mots « prophétie » et « prophétisé » font toujours référence au don de prophétie dans les écrits de Paul. La façon dont Paul parle des prophéties dans sa lettre aux Éphésiens ne doit pas être négligée lors de l'étude de 1 Corinthiens 12 à 14, mais doit être prise en considération lors de l'interprétation de ce passage plus difficile. Le vocabulaire utilisé par Paul indique qu'il ne fait pas de différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, les prophètes qui constituent le fondement de l'Église et en sont les responsables, et les prophètes dits « congrégationalistes » qui peuvent fonctionner comme pasteurs ou évangélistes d'une congrégation locale ou qui sont des membres d'Église n'ayant pas de rôle officiel. De plus, le langage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est similaire et semble montrer que le don de prophétie dans le Nouveau Testament est la continuité du don de prophétie dans l'Ancien Testament. Ainsi, il est inapproprié d'évoquer un autre type de prophétie s'agissant de 1 Corinthiens 12 à 14. Le fait que les prophètes de 1 Corinthiens 14 verset 29 doivent être mis à l'épreuve ne doit pas nous permettre d'affirmer que leur ministère prophétique était secondaire, car même les prophètes expérimentés de l'Ancien Testament l'étaient régulièrement. Bien que l'acte de prophétiser de 1 Corinthiens 14 verset 3 consiste à encourager et à consoler, le fait de limiter les prophéties à cela ou à d'autres activités similaires serait mal comprendre l'intention de Paul. Ce qui n'est pas mentionné n'est pas nécessairement exclu. Paul ne définit pas ici la prophétie, mais dans ce contexte, il souligne simplement le fait que la prophétie est compréhensible et permet donc d'édifier, d'exhorter et d'encourager. Farnell souligne que le fait de considérer la prophétie d'un Corinthiens 14 comme une prophétie congrégationaliste et non une prophétie apostolique revient à exclure le texte d'Éphésiens 4, verset 11, et à faire à tort une distinction entre Éphésiens 2, verset 20, 3, verset 5 et 1 Corinthiens 12 à 14. Prophétie et extase. Le sujet de la prophétie est lié à celui de l'extase dans de nombreuses publications. Dans son article sur les prophéties du Nouveau Testament, G. Friedrich y a consacré une partie intitulée « Extase et prophétie ». Il déclare « Dans le Nouveau Testament, l'ego individuel n'est pas exclu, il n'est pas remplacé par un phénomène divin d'extase prophétique. Cependant, il associe l'extase aux prophètes du Nouveau Testament, soulignant que « les prophéties de Jean ont aussi des caractéristiques de l'extase ». Puis, parlant de Paul, il déclare « Paul est un prophète très différent. Certes, il reçoit des révélations, mais il n'a pas de vision ni de révélation orale qui le transporte en dehors de ce monde. Dans les congrégations pauliniennes, le prophète n'est pas un voyant, mais le récipiendaire et le messager de la parole. Ce n'est pas une personne qui, possédée par Dieu, perd tout contrôle sur ses sens et doit faire ce que la puissance qui est en elle lui ordonne de faire. Il n'est pas question d'aliénation et de divagation. Le prophète de l'Église primitive est un homme conscient de ce qui se passe. Quand il parle, il peut s'interrompre si une autre personne reçoit une révélation. Quand deux ou trois prophètes s'adressent à la congrégation, les autres peuvent rester silencieux, même si certaines choses leur sont révélées. 1 Corinthiens 14, versets 29 et suivants. L'intégrité du prophète reste intacte même si toutes ses facultés et sa volonté sont soumises à l'influence du Saint-Esprit. Friedrich fait une distinction entre Jean le prophète et les prophètes de 1 Corinthiens. Même s'il ne donne pas de définition précise de l'extase, la description qu'il fait de l'église de Corinthe, qu'il semble distinguer de l'expérience de Jean, semble signifier qu'il adopte une définition classique de l'extase, à savoir un état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et du monde sensible. L'extase est un phénomène religieux parmi d'autres et est vécu par des mystiques de bien des religions. L'extase religieuse peut être auto-induite. Achimel décrit l'extase comme un monoïdéisme absolu. Il l'associe au mysticisme que l'on trouve dans toutes les religions et déclare que le mystère d'une expérience d'extase ne peut être expliqué. Échelle ajoute « L'acte prophétique donne lieu à des déclarations. L'extase produit des souvenirs qui ne peuvent être décrits par des mots. » Il poursuit ainsi. Ce qui est important dans les actes mystiques, c'est que quelque chose se produise. Ce qui est important dans les actes prophétiques, c'est que quelque chose soit dit. L'extase est un phénomène à une seule dimension, car il n'y a pas de distinction entre le sujet de l'expérience et l'expérience elle-même. La personne ne fait plus qu'un avec le divin. La prophétie est une confrontation. Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Les deux peuvent se rencontrer, mais sans jamais fusionner. Ils s'associent, mais sans pour autant ne faire qu'un. L'article très pertinent de H. Ringgren sur l'extase et les prophéties de l'Ancien Testament, dans lequel il considère qu'il y a parfois un parallèle entre les récits de l'Ancien Testament et ce que l'on peut décrire aujourd'hui comme une extase, se termine ainsi. Cependant, il existe une différence fondamentale. Généralement, celui qui est possédé par un esprit oublie tout à son sujet lorsqu'il recouvre tous ses sens, alors que les prophètes de l'Ancien Testament étaient pleinement conscients de recevoir un message. Même si l'Ancien Testament relate que Saul se retrouva exceptionnellement au milieu d'un groupe de prophètes, 1 Samuel 10, versets 5-6, 19, versets 20 à 24, certaines personnes pensant qu'il s'agirait d'une forme d'extase, contrairement à d'autres, on ne trouve pas d'expérience similaire dans le Nouveau Testament. Les prophètes de Corinthe étaient capables de se contrôler et d'arrêter de parler. 1 Corinthiens 14, versets 29 à 32. Il n'y a pas de signe d'extase. Il en est de même pour les livres du Nouveau Testament. Si Jean est considéré comme un homme à part du fait de ses visions et de son invitation à venir au ciel, Apocalypse 4, versets 1, 2, voire aussi Apocalypse 17, verset 3, Paul doit aussi être placé dans la catégorie des prophètes, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, pour autant qu'il y en ait une. Cependant, c'est le même Paul qui affirme que les prophètes ne passent pas par une étape d'extase incontrôlable. Or, il le dit dans le contexte de Corinthe. Même si les prophètes peuvent vivre des phénomènes surnaturels exceptionnels, ils gardent toujours le contrôle d'eux-mêmes et ils ne sont pas en transe. Il est certainement plus sage de ne pas créer des catégories de prophètes qui ne peuvent correspondre aux récits du Nouveau Testament. Eschel a peut-être raison lorsqu'il écrit « La théorie de l'extase, dans sa tentative de rendre l'acte prophétique plausible en l'y comparant, nous empêche de comprendre des expériences qui sont authentiques et a tendance à nuire à l'essence de la prophétie. Cela commence donc par l'affirmation que les expériences des prophètes sont similaires à celles des cultes orgiaques dans les sociétés primitives. Ainsi, le terme « extase » que nous utilisons dans le langage courant et dans le domaine des sciences humaines, pour décrire des phénomènes que nous observons dans les sphères religieuses ou non, n'est peut-être pas adapté pour parler de l'expérience des prophètes, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cela peut être en effet une tentative rationnelle d'expliquer ce qui est surnaturel et qui est parfois nié. La durée du don de prophétie dans l'Église. Le don de prophétie a-t-il cessé d'exister à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ? Plus tard? Ou bien est-il encore possible d'en faire l'expérience? Ces sujets sont discutés aujourd'hui. Farnell souscrit à la thèse suivante. L'Église ayant été solidement établie grâce aux apôtres du 1er siècle et aux prophètes du Nouveau Testament, le don de prophétie n'a plus lieu d'être. Il s'appuie sur le texte d'Éphésiens 2, verset 20, affirmant que les fondements de l'Église universelle ne peuvent être posés qu'une seule fois. Une fois que cela est fait, le don de prophétie n'est plus un élément nécessaire. Il affirme « Une fois l'Église établie, ce don cesse d'exister ». Un deuxième passage du Nouveau Testament est cité pour aller dans ce sens, à savoir 1 Corinthiens 13, verset 813, qui évoque la fin des prophéties une fois que la perfection est atteinte. Farnell comprend cette perfection comme la maturité qui passe par différents stades, jusqu'à ce que la maturité totale soit atteinte lors de la deuxième venue du Christ. Un certain niveau de maturité fut atteint avec la constitution du canon du Nouveau Testament. Ainsi, le don de prophétie cessa d'exister. Le don de prophétie, ainsi que le don des langues et le don de la connaissance, étaient des dons temporaires qui ne sont plus d'actualité. Outre les textes bibliques, Farnell mentionne deux raisons théologiques pour lesquelles, selon lui, le don de prophétie a cessé d'exister. La première est le fait que le don de prophétie est miraculeux et doit être infaillible, à savoir absolument sans défaut quel qu'il soit. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un véritable don de prophétie. il semblerait raisonnable de penser qu'aucun être humain affirmant avoir le don de prophétie ne pourrait revendiquer une telle perfection et une précision absolue dans le domaine surnaturel et miraculeux, ce qui est la caractéristique des véritables prophètes bibliques. Ainsi, le don de prophétie a disparu. Le deuxième argument provient de l'analogie qu'il fait entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le don de prophétie a cessé d'exister lorsque le dernier livre de l'Ancien Testament a été écrit. À la fin de la constitution du canon du Nouveau Testament, les prophéties du Nouveau Testament ont pris fin. Cette position est soutenue par R. Thomas, qui est cité par Farnell. Le don de prophétie est devenu obsolète avec la rédaction du dernier livre du Nouveau Testament. Une condamnation sévère est annoncée pour tous ceux qui voudraient ajouter des prophéties à l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 18. Les événements du livre de l'Apocalypse, allant de l'époque où il fut rédigé par Jean jusqu'à l'éternité, toute prétendue prophétie faisant suite à l'Apocalypse est contrefaite. Cependant, en tant que dispensationaliste, Thomas revient sur sa position et parle aussi de prophétie dans le futur. À l'avenir, les prophètes veilleront sur le peuple d'Israël et le monde en général pendant la période de la tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Joël 2, verset 28. Il s'agit d'un nouveau type de prophète, ceci n'étant plus lié à l'Église qui ne sera plus sur la terre. Même si on peut comprendre le malaise de Farnell au sujet des prophètes charismatiques modernes, ses arguments bibliques semblent légers et infondés. Par exemple, un grand nombre de personnes comprennent le texte de 1 Corinthiens 13, versets 8 à 12, à la lumière de la future résurrection et de la transformation finale, de la seconde venue du Christ, de l'achèvement, du monde futur ou de toute autre manière dont on peut décrire la fin des temps. A. Tiselton craint que, dans le cadre de la discussion sur la permanence et la disparition des dons spirituels, le point essentiel de Paul soit négligé. Il semble vouloir apaiser le débat en soulignant que le texte ne doit pas être surinterprété. Ceux qui se prononcent en faveur de la permanence du don de prophétie et slash ou de tous les dons spirituels peuvent adopter deux approches. L'une de ces approches est plus pragmatique et l'autre plus biblique. Se basant sur l'histoire de l'Église catholique et de personnes dont on estime qu'elles avaient le don de prophétie, telles que Julien de Norwich et Ignace de Loyola, Fisichella affirme ceci. Les prophètes et le don de prophétie ne peuvent être cantonnés à la période de l'Église primitive. Ils sont toujours présents dans l'Église et ils ont un rôle permanent et significatif pour l'Église. Witt adopte une approche théologique. Concernant les conditions préalables aux prophéties chrétiennes, on peut donc dire que les prophéties, dans leur aspect pratique, ne peuvent dévoiler quoi que ce soit de nouveau concernant la révélation en Christ, et qu'elles ne peuvent absolument pas aller à l'encontre des Écritures. D'un autre côté, sur un plan formel, les prophéties et les révélations prophétiques peuvent avoir une importance capitale pour la réalisation de la révélation dans l'histoire. Par conséquent, dans leur essence, les prophéties ainsi perçues sont une actualisation inspirée de la révélation et adaptée à chaque époque de l'histoire. Il poursuit en montrant que les théologiens catholiques utilisèrent les révélations prophétiques pour justifier certaines explications des Écritures, alors que certains passages pouvaient être compris différemment. Des théologiens bien connus, comme Bonaventure et Aquinas, utilisèrent les messages de mystiques prophétiques connus pour arbitrer des querelles théologiques concernant la procession de l'Esprit du Père et du Fils, la vénération d'images religieuses et la théologie des sacrements. Les évangéliques, et plus particulièrement les adventistes, se fondent directement sur les Écritures. Au sujet du texte de 1 Corinthiens 13, versets 8 à 12, Garland souligne ceci. Paul ne veut pas dire que les dons spirituels ne dureront pas jusqu'à la parousie. Ils sont une réalité dans le présent, mais ils ne perdureront pas après la fin. Dans son livre intitulé « A Pauline Theology of Charismata », Schatzman consacre une partie entière à la permanence ou le caractère temporaire des dons spirituels. Il montre que les bases exégétiques, justifiant l'affirmation selon laquelle les dons spirituels ont disparu à la fin de la période apostolique et la constitution du canon, sont très faibles. J. Rice se prononce en faveur de la permanence des dons spirituels, se basant sur deux textes, à savoir 1 Corinthiens 1, versets 6, 7, 13, versets 9, 10 et Éphésiens 4, verset 13. L'unité de la foi, la connaissance de Jésus et la maturité ne deviendront réalité qu'au retour du Christ et lors de la première résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 53. Se basant sur 1 Corinthiens 13, verset 8, 10, Jim Hager conclut que le don de prophétie ne cessera pas d'exister avant l'accomplissement de la prophétie du retour du Christ. W. Müller se prononce également en faveur de la permanence du don de prophétie jusqu'au temps de la fin. Il montre que, dans son conflit avec les montanistes, l'Église primitive n'a pas été capable de citer un texte sur la fin du don de prophétie à la fin du 1er siècle. De plus, il mentionne 1 Corinthiens 14, versets 1, 39 et 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, ainsi que le don de discernement pour contribuer à évaluer les déclarations prophétiques. Il commente le texte d'Apocalypse 22, versets 18, 19, et enfin, il cite Joël 2, versets 28 à 32, pour montrer qu'il y aura une activité prophétique jusqu'à la fin des temps. Ainsi, combien de temps le don de prophétie demeurera-t-il dans l'Église ? Comme cela a déjà été dit, cette question n'est pas abordée directement dans les Écritures. Nous ne disposons que d'éléments indirects. Voici quelques arguments en faveur de la permanence du don de prophétie jusqu'au retour du Christ. 1. Les dons spirituels sont essentiels pour que l'Église puisse former un corps. La fin des dons spirituels entraînerait une désintégration du corps du Christ sur la terre. 2. La fin de certains dons spirituels ne peut être démontrée par les Écritures, pas même avec le texte de 1 Corinthiens 13. Le contexte montre que la fin des dons spirituels surviendra lors de la parousie et de la résurrection. Cela ne signifie pas que tous les dons doivent être présents et mis en pratique de la même façon au cours de l'histoire de l'Église. Seul Dieu, dans sa souveraineté, peut non seulement déterminer quels dons les individus peuvent recevoir, mais aussi à quelle fréquence et dans quelle mesure des dons spécifiques sont accordés. 3. Les dons les plus importants, dont fait partie le don de prophétie, sont essentiels pour bâtir le corps du Christ, Éphésiens 4, versets 11, 12, et atteindre le but qui est de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état de l'homme adulte à la mesure de la stature parfaite du Christ, verset 13. L'unité, la maturité et la mesure parfaite ont une dimension présente, mais c'est du retour du Christ qu'il est question dans ce texte. La triple description du verset 13 est une allusion à l'objectif ultime du peuple de Dieu à la fin des temps. 4. La prophétie de Joël 2, versets 28 à 31, sur l'effusion du Saint-Esprit et le renouvellement du don de prophétie a été partiellement accomplie à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit fut accordé aux personnes présentes. Acte 2, versets 14 à 21, 32, 33. Cependant, le jour du Seigneur grand et redoutable, mentionné dans Joël, est associé de façon particulière au retour du Christ. Ainsi, cette prophétie devrait s'accomplir de nouveau avant le retour du Christ.
5. Jésus a annoncé que des faux prophètes surviendraient après son ascension et avant son retour. Matthieu 24, versets 11, 24. Cependant, il n'a pas parlé des prophètes en général. Manifestement, le problème consiste à faire la distinction entre les faux prophètes et les véritables prophètes. Rien ne semble laisser penser que Dieu n'enverrait plus de véritables prophètes. Dans le chapitre précédent, il avait promis d'envoyer des prophètes, Matthieu 23, verset 34. Ici, il met en garde contre les faux prophètes. Cela reflète quelle était la situation au 1er siècle et ce qui devrait se produire à nouveau avant son retour. Étant donné qu'il y a une réelle confrontation entre Jésus-Christ et les faux Christs qui s'efforcent de l'imiter, on peut penser que les croyants sont appelés à choisir entre les faux prophètes et les véritables prophètes. Le danger est que même les croyants peuvent être trompés, ce qui a du sens s'ils doivent choisir et ne peuvent rejeter tous les prophètes. France déclare ceci. Après tout, la raison pour laquelle les faux prophètes peuvent passer pour des moutons est certainement que les prophéties véritables sont un phénomène familier et bienvenu dans l'Église. Résumé. Voici ce que l'on peut conclure à la fin de cette partie sur la nature, le rôle et les fonctions des prophéties et des prophètes. 1. Le ministère prophétique comporte deux dimensions, Dieu
et les êtres humains. Schnell déclare « Tout d'abord, ils, les prophètes, interprétaient les actes de salut passés et futurs de Dieu en Jésus-Christ, voir Actes 20, versets 23, 21, versets 4, Éphésiens 3, versets 5. Ils révélaient la volonté du Christ ressuscité pour l'Église et donnaient le témoignage de Jésus, voir Apocalypse 19, verset 10. Les prophètes transmettent le message divin qu'ils ont reçu aux personnes concernées et ils les appellent à se repentir et à cheminer avec Dieu. Leur ministère consiste aussi à reprendre, réprimander, encourager, réconforter et apporter de l'espoir. Mais ils ne se limitent pas à la dimension pastorale. Habituellement, des éléments de prophétie prédictive font partie du ministère prophétique. Ainsi, en parlant du royaume de Dieu à venir, les prophètes apportaient une espérance à leur auditoire. 2. Bien qu'il y ait un dénominateur commun entre les prophètes, voire le premier point de ce résumé, il y a des différences entre eux, leur sexe, l'étendue de leur ministère et la façon dont ils s'adressent à leur auditoire, autrement dit, le genre littéraire. 3. Les distinctions entre les soi-disant prophètes congrégationalistes et les prophètes à part entière semblent être artificielles et inappropriées. Il n'y a manifestement qu'un seul type de prophétie à l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament. 4. Le fait d'employer le terme « extase » s'agissant des prophètes recevant des révélations divines ne rend pas justice à leur expérience. Cela évoque des connotations erronées. Le mot « extase » a plusieurs définitions qui ne viennent pas des Écritures. Les prophètes sont conscients de vivre des expériences surnaturelles et ils sont capables de transmettre leur message, même s'il est parfois difficile de décrire la réalité céleste avec des termes humains. 5. Le don de prophétie est permanent et il ne prendra fin que lors du retour du Christ, quand la communication indirecte entre le croyant et Dieu sera remplacée par une relation face à face. Cela rendra le don de prophétie inutile. Le message prophétique du Nouveau Testament. Le message prophétique au sens large. Cela nous amène à notre dernier point, le message prophétique du Nouveau Testament. Nous avons montré que les prophéties ne sont pas de simples prédictions. Elles sont aussi faites d'exhortations, de réprimandes et de paroles de réconfort et concernent tous les genres littéraires du Nouveau Testament. Les appels à la repentance de Jean-Baptiste et de Jésus ont une dimension prophétique. Les prophéties sont très présentes dans le ministère de Jésus, dans ses paraboles, dans le sermon sur la montagne, dans ses dialogues avec ses amis et ses adversaires, pour ne donner que quelques exemples. On trouve également des prophéties dans les témoignages des apôtres et dans leur tentative de dénoncer les faux enseignements. Il y a des prophéties dans les lettres du Nouveau Testament, dans les parties théologiques, parénétique ou éthique, et même dans les récits du Nouveau Testament. Enfin, on trouve aussi des prophéties dans les passages prédictifs. D'une certaine façon, tout le Nouveau Testament est prophétique, comme c'est le cas pour l'Ancien Testament. Le message prophétique dans les prédictions du Nouveau Testament. Il semble que le Nouveau Testament ne contienne pas autant de prophéties prédictives que l'Ancien Testament, qui comporte de nombreux livres prophétiques et est divisé en trois parties. La loi, Torah, les prophètes, Nébihim, et les écrits, Ketubim. Il n'y a qu'un seul livre totalement prophétique dans le Nouveau Testament, à savoir l'Apocalypse de Jean. Pourtant, en prêtant davantage attention, on trouve dans le Nouveau Testament l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, ses déclarations sur son retour et la résurrection des êtres humains, le passage sur la mission des disciples, qui était une prédiction de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, et de la proclamation de l'Évangile, Actes 1, verset 8. Dans le Nouveau Testament, l'accent est mis de façon très claire sur le retour du Christ, et cela déjà dans 1 Thessaloniciens, qui est l'un des premiers documents écrits du Nouveau Testament. La résurrection à venir est décrite en détail dans 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. Il est aussi question de faux enseignements, Actes 20, verset 29, 1 Timothée 4, 2 Pierre 2, et de l'homme sans loi, 2 Thessaloniciens 2. La description des difficultés économiques et de l'exploitation est accompagnée d'appels à la patience de la part de ceux qui souffriront dans les derniers jours, Jacques 5. Le jour du Seigneur et la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre sont mentionnés dans 2 Pierre 3. Nous ne trouvons que quelques exemples de prophéties prédictives dans le Nouveau Testament. Presque tous les écrits du Nouveau Testament contiennent au moins quelques éléments prédictifs. Parfois, ils font référence à certaines personnes du 1er siècle. Parfois, à des groupes de personnes ayant vécu plus tard. Et à d'autres reprises, à des événements globaux. Il est important de se souvenir de ces éléments prédictifs, car il semble aujourd'hui que les prophéties. Nous n'avons pas mentionné le livre de l'Apocalypse avec ses prophéties prédictives majeures allant de l'époque de Jean jusqu'à la fin des temps, Apocalypse 1 à 14, et les récits détaillés des événements de la fin, les plaies, les alliances politiques et religieuses opposées luttant contre le peuple de Dieu, le jugement final et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, d'Apocalypse 15 à 22. Ainsi, le Nouveau Testament est riche en prophéties prédictives. Mais quel est le but des prophéties du Nouveau Testament en général et des prophéties prédictives en particulier? 1. L'objectif des prophéties est de nous aider à concentrer notre attention sur Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Elles ont pour but de nous aider à développer notre relation avec Dieu. 2. Les prophéties concernent les individus ainsi que la communauté. Elles parlent de salut personnel et d'un avenir plus radieux, et elles invitent les êtres humains à accepter cela. 3. Les prophéties encouragent aussi les êtres humains à faire preuve d'amour et à mener une vie sainte conformément aux commandements donnés à l'humanité. 4. La description des événements futurs doit nous aider à donner du sens à l'époque que nous vivons, tandis que nous attendons le retour du Christ. Les événements à venir nous donnent des repères, mais ne sont pas importants en eux-mêmes. Nous risquons de nous perdre dans les détails, de nous égarer en discutant des aspects trop spécifiques des prophéties apocalyptiques et de perdre de vue le contexte général de l'Apocalypse. Il est avant tout question de Jésus, de la révélation de Jésus-Christ venant de Dieu le Père. Apocalypse 1, verset 1. 5. Les prophéties nous conduisent au Dieu Tout-Puissant, à Jésus qui est l'Alpha et l'Oméga, et au Saint-Esprit qui est l'Esprit de prophétie et qui rappelle chaque jour aux êtres humains qu'il dirige toutes choses. Tout est entre les mains du Seigneur de l'univers. Il est rempli d'amour pour son peuple. 6. Grâce au sanctuaire, les prophéties rappellent aux croyants que le salut et le jugement, ainsi que la restauration de toutes choses, viennent du trône de Dieu qui veut demeurer parmi ses enfants sur la terre et vivre avec eux. 7. Grâce au sujet du grand conflit, les prophéties font une description globale de ce qui s'est produit dans le passé, de ce qui se déroule ici et maintenant, et de ce qui arrivera dans l'avenir. Elles nous montrent également que non seulement cette terre, mais aussi tout l'univers sont touchés par le péché, la souffrance et la mort. Le plan du salut est présenté, et il décrit l'amour, la sainteté et la justice de Dieu qui désire nous faire entrer dans le paradis, le glorieux royaume de Dieu, dans lequel les conséquences mortelles du péché auront disparu. 8. Les paroles prophétiques contiennent de merveilleuses promesses, comme par l'exemple la possibilité d'accéder de nouveau à l'arbre de vie dans le paradis, Éphèse, le don de la couronne de vie et la possibilité d'échapper à la seconde mort, Smyrne, le fait de recevoir un nouveau nom et de rencontrer Jésus personnellement, Pergame, la participation au règne de Jésus, Thyatire, l'inscription de notre nom dans le livre de vie, Sardes, l'inscription du nom de Dieu sur les croyants qui sont les piliers du temple de Dieu, Philadelphie, et le partage du trône du Christ, Laodicée. 9. Les paroles prophétiques aident les enfants de Dieu à aller de l'avant, à ne pas se décourager et à ne pas perdre de vue l'objectif final. Elles les remplissent d'espérance et de joie. Conclusion. Nous arrivons à la fin de notre réflexion sur la voie prophétique dans le Nouveau Testament. On y trouve de nombreuses prophéties. En réalité, tout le Nouveau Testament est lié aux prophéties. L'auteur qui agit par l'intermédiaire des auteurs humains est le Saint-Esprit qui les utilise de façon surnaturelle afin de leur révéler la vérité sur Dieu. Cette vérité concerne le plan du salut et le mode de vie chrétien. Les prophéties ne nous sont pas données uniquement pour développer nos capacités rationnelles et élargir notre horizon, même si cela est important. Elles nous sont données pour nous permettre de cheminer chaque jour avec Dieu. Le prologue de l'Apocalypse résume bien ce que Dieu nous a révélé et donné en Christ. Apocalypse 1, verset 47. 1. Nous sommes aimés. 2. Nous sommes libérés de nos péchés et sauvés. 3. Nous sommes les représentants de Dieu. Et 4. nous attendons le retour de Jésus dans la joie. Tout cela en vaut la peine. Le fait de prêter attention à la voix prophétique du Saint-Esprit qui nous parle par les Écritures et le ministère de prophètes authentiques non canoniques, comme Ellen G. White, peut transformer notre vie.